Je vous invite maintenant à ouvrir votre Bible et lire avec moi dans Luc au chapitre 10. Luc chapitre 10 et les versets 38 à 42. Luc 10, 38 à 42. Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village. Une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit au pied du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit, « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Puisse le Seigneur bénir sa parole et sa sainte influence dans notre vie. Amen.
En tout cas, je remercie l'Église de Marie de me permettre encore de m'adresser à l'Assemblée. Pour aujourd'hui, je me contente, nous allons faire quelques bonds en arrière, nous allons à Béthanie, si vous voulez bien. Vous savez, l'histoire de Marthe et Marie, qui a été lue tout à l'heure, n'apparaît que dans l'évangile de Luc. Alors que souvent, Marc, Matthieu, Luc, ils ont une trame commune que chacun raconte avec sa sensibilité propre, ce texte-là est spécifique. Si donc Luc nous le transmet, c'est parce qu'il le trouve instructif. Lorsqu'on observe ce qui se trouve juste avant, c'est-à-dire la parabole du bon samaritain, lorsque vous regardez dans votre texte, dans votre Bible, et ce qui se trouve juste après, qui est l'instruction que Jésus donne sur la prière, on constate que dans cette partie de son livre, Luc enchaîne toute une série donc, de séquences indépendantes qui ne se lient pas dans un déroulement logique du ministère donc, de Jésus. Chaque partie n'est pas liée à l'épisode précédent. C'est-à-dire, par exemple, la parabole du Samaritain, qui se trouve juste avant la partie qui nous intéresse, instruit sur ce qui est le prochain, mais n'est pas liée à la scène de Béthanie. Alors, on a davantage le sentiment de se trouver dans un parcours fait exclusivement d'enseignement. Et cela n'est pas étonnant, sachant que Jésus a passé la plupart de son temps à ce ministère. Alors, quel est donc l'enseignement ou les enseignements que veut nous transmettre ce texte ? Avant de tenter de porter quelques éléments de réponse, il convient de voir le contexte dans lequel se déroule cette scène. Jésus est avec ses disciples en chemin vers Jérusalem. Dans 7 jours, il sait qu'il va être mis à mort. Il est fatigué par la route, alors il va s'arrêter chez ses amis à Béthanie, un petit village. On peut peut-être voir la première diapo. Un petit village qui se situe à 2,7 km ou à peu près 3 km à l'est de Jérusalem, près du mont des Oliviers, dont Jésus fera d'ailleurs de ce petit lieu un haut lieu du christianisme. Et ce village est aujourd'hui un village arabe qui s'appelle du nom de El Al-Zirva, qui vient du grec Lazarion et qui signifie tout simplement Lazare. Là, ils sont reçus par une famille que Jésus connaît bien. Et dans cette maison vont se passer un certain nombre de choses qui vont marquer l'histoire de la spiritualité et de la théologie chrétienne. Parce que les femmes qui y sont vont prendre un relief tout particulier par la complexité de leur attitude ou de leurs propos. Alors, avant d'aller plus en avant dans l'analyse de ces deux femmes, disons un petit mot sur ce village situé, comme je vous disais, sur la rive est du Jourdain, qui a occupé une si grande place dans le ministère de Jésus. Alors, c'est le lieu du figuier maudit en sortant du village. Vous savez que Jésus donc avait trouvé ce figuier qui ne portait pas de fruits, il avait maudit. C'est aussi le lieu de la toute dernière Pâque, on trouve ça dans Marc 11. C'est le lieu d'où partit l'acclamation de Jésus et l'entrée triomphale à Jérusalem. Béthanie, c'est aussi le lieu où habite Simon, où habitait Simon. Vous savez, le lépreux que Jésus a guéri. chez qui Marie versa d'ailleurs du parfum et essuya les pieds de Jésus avec ses cheveux. C'est là qu'il habitait. C'est aussi le village de Judas. Vous savez que Judas, c'était le fils de ce fameux Simon. On trouve ça dans Jean 12, 44. C'est là où il passa la nuit, après avoir chassé les vendeurs du temple pour la dernière fois. Donc, il va revenir précipitamment dormir, donc, là, à Béthanie. C'est dans ce petit cimetière de ce petit village qu'il va accomplir l'un des plus grands miracles, à savoir la résurrection de Lazare. C'est encore près de Béthanie où il fut lui-même baptisé. Voilà, c'est. Alors vous savez, il y a une petite polémique. Certains disent que Jésus a été baptisé ici, et l'autre, l'autre diapo, et certains disent, voilà, il y avait donc, ils ont détourné l'eau un peu, et c'était ici. Alors chacun donc prend, c'est pas nécessaire, c'est pas important de savoir exactement si c'est là ou là, mais enfin, il a été baptisé à Béthanie, merci. Et vous savez que c'est aussi là qu'il quitta notre terre pour monter aux cieux, Luc 24, le verset 50. C'est à Béthanie que Jésus donc va être enlevé. Alors, loin de se douter du drame qui va se jouer dans 7 jours, donc de l'angoisse intérieure qui avait commencé à saisir Jésus, comme d'habitude, Marthe s'affaire pour recevoir tout le monde. Elle se met au fourneau pour préparer des plats multiples. Il ne faut pas oublier que dans les familles juives, on ne mange jamais qu'un seul plat pendant le repas. Il peut y avoir plusieurs plats substantiels. Et on peut imaginer qu'ils étaient au minimum 17. Si on compte les 12, Jésus, la famille était 3, Simon, on peut supposer que Judas était par là aussi, et puis la foule, nous dit Jean 12, verset 9, donc elle a besoin de l'aide afin que tout soit prêt pour le repas. Et voilà-t-il pas que l'une des personnes dont elle aurait le plus besoin au moment où elle croule sous le travail est assise, tranquillement. De plus, parmi tous ces hommes, a écouté Jésus. Le texte nous dit qu'elle était assise à la meilleure place, le plus près possible du Seigneur, c'est-à-dire à ses pieds. Alors, ce qui avait une signification très particulière, elle avait adopté, Marie, l'attitude d'un disciple écoutant son maître, ce qui est le symbole d'une disponibilité intérieure. Vous savez, c'est ainsi que Paul décrit sa formation religieuse dans Actes, chapitre 22, verset 3. Il dit « J'ai été élevé et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte. » Il faut rappeler ici un fait de l'époque. L'enseignement religieux n'était pas réservé aux femmes, n'était réservé qu'aux hommes. La Torah orale n'était étudiée que par eux. Donc, pour une femme, se mettre à l'écoute d'un rabbi parmi tous ces hommes était au minimum incongru, voire déplacé, inconvenant, peut-être scandaleux. En plus, à ses pieds. Alors, l'attitude de Marie était dérangeante pour l'époque. Et c'est ce qui va donner de l'aplomb à Marthe pour se plaindre. Alors elle va dire au verset 40, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Alors, vous savez, elle ne s'adressera même pas à sa sœur. Elle s'adressera directement à Jésus, certaine qu'elle va trouver en lui un appui, puisque sa sœur ne respecte pas les traditions et usages anciens, à savoir la place des femmes dans la société de l'époque. Marthe s'attendait à être soutenue par Jésus, mais au contraire, il va faire ce qui était anormal pour un rabbi de l'époque, et il va publiquement approuver le choix de Marie, en disant « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Oh, on peut imaginer le froid parmi le groupe. Alors pourquoi Jésus va-t-il agir de la sorte alors que Marthe est dans l'action juste? L'une des réponses la plus évidente est que le Seigneur souhaitait provoquer sa conscience sur un fait qu'elle n'avait toujours pas saisi, à savoir qu'avec lui, les temps sont en train de changer. Et qu'il ne souhaitait pas, lui Jésus, se conformer à des lois et des coutumes qui n'avaient pas été données par son Père. Il voulait aussi faire comprendre à Marthe qu'il était celui qui repousse les bornes et les limites de ce qui se fait ou de ce qui ne doit pas se faire. Je le reconnais bien là, notre Seigneur, vous savez. Rappelons-nous avec la Syrophénicienne ou avec la Samaritaine au puits de Jacob. Il repousse les limites et les bornes. Alors il voulait aller plus loin avec Marthe et lui faire comprendre qu'il y a également un temps pour agir, un temps pour parler et même débattre avec lui comme elle était en train de faire. Ce n'était pas la première fois, rappelons-nous, la discussion qu'elle aura avec Jésus sur la résurrection de son frère qui nous est rapportée dans le livre de Jean au chapitre 11. Oui, on peut débattre avec Jésus. On peut lui faire comprendre qu'on n'est pas toujours d'accord. Mais Jésus voulait surtout qu'elle saisisse qu'ici et maintenant était un moment particulier, la dernière dans sa demeure. Et que ce moment-là avait par conséquent déterminé la pertinence du choix de sa sœur. Marie avait choisi le beau moment. Un moment exceptionnel. On n'est pas sûr que Marie elle-même avait saisi la gravité du moment. Mais elle avait choisi surtout ce qui était pour elle une étape de son propre cheminement personnel. Alors, en voyant la scène, Marie est assise au pied de Jésus, elle le fixe. Elle est dans la contemplation. Elle boit chaque mot qui sort de sa bouche. J'ai envie de dire qu'elle l'absorbait littéralement. Elle avait besoin de laisser Dieu parler à son âme. Le lendemain, chez Simon, elle ira beaucoup plus loin dans sa démarche. Et elle va faire un geste qui va marquer l'histoire de la chrétienté pour l'éternité. En versant du parfum très cher sur la tête de Jésus, et va essuyer ses pieds, non d'un linge qui aurait été plus approprié. Elle aussi, elle va déplacer les bornes de ce qui est politiquement correct. Elle va faire preuve d'audace, sans calcul. Elle va se servir de ses propres cheveux comme d'un chiffon pour essuyer les pieds de son bien-aimé. Elle en était là, Marie. Et nous, quelle était la dernière fois que nous avons exprimé à Jésus notre amour pour lui de façon aussi audacieuse? Vous savez, nous avons souvent commis l'erreur d'opposer ces deux femmes dans leur comportement. Mais un autre regard sur ce texte peut nous permettre de voir que ces deux sœurs symbolisent deux aspects, mais d'un même message. Vous savez, j'aime beaucoup cette femme, Marthe. Elle a quelque chose de formidable en elle. Elle est vraiment au service des autres. Elle accueille tout le monde dans sa maison. Elle retrousse ses manches, elle se met à l'œuvre afin que chacun se sente bien. Dans son hospitalité, elle vit déjà la parole de l'épître, de l'épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 2, où il dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car c'est grâce à elle que quelques-uns à leur insu hébergèrent des anges. » Fidèle à Marthe, fidèle à la longue tradition d'Israël, elle imite dans cet acte-là son ancêtre Sarah. Vous vous souvenez qui a pétri de la fleur de farine et qui a fait des galettes pour 3 visiteurs venus à la rencontre d'Abraham dans Genèse 18, verset 6. C'est qu'il y a dans sa maison bien plus qu'un ange. C'est le Seigneur. Alors pour Marthe, il importe de bien le recevoir et elle se met énergiquement à la besogne. Elle est absorbée par les multiples soins du service. Ne serait-elle pas déjà passée de l'écoute de la parole de Dieu au service des autres? On dirait d'elle aujourd'hui qu'elle est consacrée. Vous savez que l'existence même de l'Église est due à des marques pour construire, des marques pour nettoyer, des marques pour donner de l'argent et du temps, cuisiner, accueillir, soulager des douleurs, réconforter, rendre visite, jouer de l'orgue, filmer, que sais-je. Heureusement qu'il y a des personnes comme Marthe. N'est-ce pas ce que Jésus nous invite à faire par ses propres actes lorsqu'il dit « Soyez les serviteurs les uns des autres » Oui, c'est bien cela qu'il nous invite à faire aussi avec la parabole du bon samaritain qui se trouve juste avant. Alors, si l'on accepte cet autre regard sur le texte, ne pourrait-on pas considérer que Marthe est à un stade de développement plus avancé que Marie ? La parole écoutée de Jésus a déjà germé en elle et produit maintenant de bons fruits. Il y a encore quelque chose que je trouve formidable dans sa façon d'être, Marthe. C'est qu'elle a pris des risques pour Jésus. Elle s'exposait, Marthe, dans la Palestine de l'époque. Elle accueillait tout un groupe ayant Jésus à leur tête. Vous savez ce que ça signifie ? Bannissement du temple. Aujourd'hui, on dirait excommunié dans certaines religions. Eh bien, dans sa maison, Jésus était le bienvenu dans cette famille de Béthanie. Il savait qu'il pouvait y venir quand il le souhaitait. C'était un familier, il était à l'aise et elle était à l'aise avec lui. Et lui avec elle. Elle leur préparait de la nourriture, pas une fois, deux fois, trois fois, mais des dizaines de fois. Tant et si bien que son foyer était devenu la base arrière du maître, chez qui il aimait bien se rendre. Alors Marthe, elle assumait pleinement cette amitié au grand jour. En dépit des regards et des opinions et surtout des menaces des rabbins qui interdisaient le temple à tous ceux qui fréquentaient Jésus. Voilà, j'aime ça que j'aime aussi chez Marthe. À l'exemple de Marthe, pouvons-nous affirmer aujourd'hui qu'il en est de même dans notre relation avec Jésus ? Notre amitié pour lui n'a-t-elle jamais été, dans certaines circonstances, un peu embarrassante pour nous ? L'avons-nous toujours assumé, Jésus, dans notre vie ? Nous sommes-nous jamais exposés pour lui ? Avons-nous jamais eu à trancher dans notre cheminement spirituel entre notre relation avec lui et quelques situations à partir desquelles on pense pouvoir tirer quelques avantages? Oui, Marthe était exceptionnelle en cela. Mais il y a tout de même un problème chez Marthe. C'est qu'elle est tellement à l'aise avec le maître qu'il lui arrive de se lâcher et d'oublier qui il est. Alors elle l'invective, comme elle ferait pour Lazare, et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur ne me laisse seule pour servir à Marthe ? Marthe, comment as-tu osé ?» Alors il est vrai que l'on a tout à fait la possibilité de dire à Dieu qu'on n'est pas d'accord. Il y a de nombreux exemples dans la Bible où on voit cela. Vous savez, lorsque Dieu va appeler Moïse à son ministère, Moïse va dire, « Moi, non, moi je ne suis pas parlé, oh là là, c'est pas pour moi ça. Hein. » On peut discuter avec le Seigneur, je ne sais pas parler. Voilà, d'accord. Mais ce qui n'est pas bon d'oublier, c'est que c'est lui, Dieu, et que l'on ne peut se permettre de lui donner des ordres. Ce qu'elle aura la malheureuse idée de faire dans la première partie du verset 40 en lui disant, dis-lui donc de m'aider. La façon, vous savez, dont Jésus va la reprendre, remettre Marthe, je n'ai pas envie de dire à sa place, mais la façon dont Jésus va se prendre pour la rappeler à l'ordre, Marthe, Marthe, montre tout le respect qu'il a pour elle. Car en effet, dans la Bible, il y a toute une théologie des noms répétés. Cet appel avec le nom répété deux fois n'est donné que pour les grands serviteurs de Dieu. Abraham, Abraham. Jacob, Jacob. Moïse, Moïse, Samuel, Samuel. En faisant ainsi, Jésus était en train de lui exprimer la hauteur de ses sentiments et de son affection, mais en même temps, cette délicatesse ne l'empêchera pas de la reprendre. Vous savez, dans Apocalypse 3, verset 17, 19, pardon, que dit Dieu ? Moi, je reprends et je châtie ce que j'aime. Alors cette délicatesse ne l'empêchera pas de la reprendre et de lui faire remarquer qu'elle est en train de se disperser, de s'éparpiller, alors qu'elle le reçoit sous son toit, qu'elle s'agite et que son esprit était préoccupé à autre chose. Alors qu'il enseignait et qu'il exposait pour la dernière fois les mystères du royaume. Vous savez, comme elle, comme Marthe, il nous arrive beaucoup de confondre activisme et consécration réelle. À force d'être dans l'action, nos pensées s'éparpillent et lentement notre vie aussi se disperse et s'éparpille. Puis notre relation avec Dieu devient un peu brouillon, malheureusement. On se prend quelquefois à croire que l'action peut tenir lieu de prière, alors on cesse de prier. On considère comme vitales des choses périphériques de notre vie et l'on oublie, ou on reporte à plus tard, de se recentrer autour de sa parole, bien entendu, et de se poser autour de l'unique absolu qu'est Jésus. En silence. Parce que c'est dans cette sorte de relation qualitative qui doit être intime que les morceaux dispersés ou blessés de notre âme par des souffrances de tous bords, par les échecs répétés de la vie, par les guerres, les brutalités, les violences, etc., que sais-je. Et c'est exactement ce que Marie est en train de faire au pied de Jésus, car il n'est pas possible pour une personne comme vous et moi d'en venir par nos propres forces à remonter la pente ou à aimer son prochain et à le servir à la manière de Jésus. Cela n'est pas possible pour une personne normale comme vous et moi. Nous sommes normaux, n'est-ce pas ? C'est pas possible. Dans cette écoute, Marie était émue jusqu'au plus profond d'elle-même. Chaque mot, chaque respiration du maître impactait son cœur et était en train de le transformer. Son esprit accueillait là, en ce moment précis, la nouvelle vision de sa vie, celle qui va enfin donner à sa foi la dimension active qui lui manquait et devenir enfin comme sa sœur. Non, mieux. Comme Jésus, dans l'action pour la gloire unique de Dieu et aussi dans l'action pour l'autre, parce qu'on apprend à l'aimer l'autre différemment. Alors disons cela autrement, seul ce type de relation nous permet de faire le don absolu de nous-mêmes. Mais auparavant, elle avait besoin d'écouter et d'admirer cette parole incarnée. Qu'était Jésus. Elle avait besoin de se ressourcer. Et c'est exactement ce que Jésus nous invite à faire dans Apocalypse 3, 20. Qu'est-ce qu'il dit ? Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entre et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. C'est-à-dire, nous aurons un moment d'intimité particulier. Parce que c'est dans l'intimité de cette rencontre, il faut le recevoir. Non comme celui à qui on a quelque chose à donner, car il ne vient pas pour recevoir de nous, mais on le reçoit comme celui qui vient pour se faire connaître de nous et nous combler par cette parole que nous négligeons tant. Il vient aussi pour changer notre vision de la vie, pour nous transmettre la sienne. Car sans cette intimité de qualité, avec lui, certaines expériences spirituelles, retenez bien ceci, demeureront toujours hors de notre portée. Parce que seule la transformation du cœur finit par développer une certaine façon d'être. Seule la transformation du cœur finit par développer en nous le goût d'agir à la manière de Jésus. Alors pour terminer, et à l'instar de ces deux figures de cheminement, il convient de s'interroger sur son propre parcours personnel avec Jésus et porter des réponses pour soi-même personnellement aux questions suivantes, si le pasteur peut nous mettre avec nos pianos. Est-ce qu'on peut envoyer donc les... Je vais vous inviter à regarder donc les questions qui se trouvent en... Voilà. Je voudrais vous inviter pendant un bout de temps, pendant que notre pasteur joue un morceau qui nous amène à la méditation. Quelle est la dernière fois? Vous y répondez pour vous-même. Quelle est la dernière fois avons-nous fait preuve d'audace dans l'expression de notre amour pour lui? Comme Marie l'a fait. Essayons de porter une réponse personnelle. Combien de fois avons-nous laissé peut-être laisser passer des occasions de tête-à-tête spéciales avec lui. Lui qui lit dans les cœurs, c'est le moment de lui demander, Seigneur, où suis-je avec toi dans ma disponibilité intérieure? On ne peut pas passer notre temps à courir en permanence et ne jamais porter des réponses à ces questions. Où suis-je dans mon engagement dans ta mission? Où suis-je réellement dans ma consécration avec toi? Je vous laisse réfléchir à quelques instants pendant que notre pasteur, dans une minute, essayons de porter des réponses à ces questions. Je vous invite, si vous le voulez, à noter les questions. Si c'est trop précipité pour vous pour porter les réponses, notez-les et portez les réponses chez vous. Alors, si vous n'avez pas pu porter des réponses actuellement, acceptez-vous que le Seigneur repousse encore un peu plus loin les limites de votre relation avec lui et d'aller plus loin. En tout cas, répondez pour vous-même et que son nom soit glorifié dans la réponse.